France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Alors nous y revoilà, et attention, sujet miné, le Premier ministre a sifflé la fin peut-être de ce nouvel épisode en disant qu'on ne changeait pas la loi, qu'une femme voilée pouvait accompagner une sortie scolaire. Maintenant, qu'on le veuille ou non, le débat n'est peut-être pas tout à fait retourné dans sa boîte. Revoilà donc le voile, thème une fois de plus qui fait apparaître de sérieuses divisions, y compris au sein du gouvernement, entre la ligne dure, celle de Jean-Michel Blanquer par exemple, pour qui le voile n'est pas souhaitable dans nos sociétés, fermez les guillemets, celle de Sibeth Ndiaye qui pense au contraire que la présence de ses mères accompagnatrices peut aussi être un facteur d'intégration positif. Nous voilà revenus à cette loi que nous sommes les seuls à avoir, qui aujourd'hui a presque 20 ans, celle sur le voile à l'école bien sûr. Nous voilà aussi revenus au dernier mots du Conseil d'État qui, eux, n'ont que 6 ans. Mais ce débat, évidemment, va bien plus loin. Il parle aussi de notre rapport à l'islam, il parle de la place qu'on lui accorde dans nos sociétés. Il joue avec le feu quand il en mêle foulard, immigration, radicalisation, communautarisme, laïcité, tout ça dans le même panier. Pour les uns, il n'y a qu'un foulard. Il est forcément prosélyte. Pour les autres, il y a des nuances et elles sont fondamentales. Et comme à chaque fois, ça commence par une provocation. Elle est venue d'un élu Rassemblement National. C'est toujours bon de se rappeler d'où part une polémique. Ça permet aussi de comprendre qui y a intérêt, comment on s'y engouffre et comment on en sort. Voilà, le voile à l'heure de la sortie, c'est maintenant et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Églantine, c'est vous la première. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Oui, bonsoir, je suis enseignante et je voulais dire que c'est déjà difficile de trouver des parents pour les sorties scolaires. Donc si en plus on doit en refouler parce que certains élus du Rassemblement National ne savent pas lire les textes, on est franchement mal barré. Et je voulais dire aussi qu'en tant qu'athée, moi je suis absolument contre tout signe religieux aussi visible, mais je pense pas que ostraciser et humilier une femme en public soit vraiment la solution pour une société qui vit en bonne intelligence. Je pense même que c'est franchement lamentable venant de quelqu'un qui est conseiller régional et qui cherche juste à faire le buzz au point de raconter absolument n'importe quoi en public, puisque vous l'avez rappelé, la loi n'interdit pas le port du voile pour les personnes qui accompagnent les sorties scolaires. Donc si le but c'est que à plus ou moins long terme, on crée une génération qui se défie des institutions, ne les respecte plus à cause de ce genre de scène complètement ridicule au point de ne pas voter, et puis on peut imaginer toutes les dérives possibles et imaginables, et ben ce monsieur a bien réussi son coup, et j'irai pas jusqu'à le féliciter, mais je trouve ça vraiment pitoyable.
Églantine, merci beaucoup de cette entrée en matière qui nous permettra d'aborder deux ou trois choses au même moment. Merci beaucoup pour discuter ensemble autour de cette table. Boucheraz, vous êtes là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, vous êtes présidente de l'association du féminisme populaire. Bonsoir, Rodrigo Arenas.
Bonsoir.
Arenas, très bien. Co-président de la FCPE, vous savez comment se passent évidemment les sorties scolaires. On va rappeler quand même qu'à la FCPE, vous aviez fait polémique avec cette affiche sur laquelle on voyait une femme voilée. Le texte disait « Oui, je vais en sortie scolaire et alors ?» La laïcité, c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception. On se souvient de cet épisode-là. Bonsoir Nicolas Cadenne.
Bonsoir.
Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Les rappels à la loi réguliers que vous aurez à nous faire seront bien utiles. Je voudrais revenir un instant d'abord sur la remarque d'Églantine Boucheraz-Azouz. Est-ce que, en effet, ce genre d'événement, de ressortie de la boîte de ce débat-là, risque, est finalement plus risqué pour la laïcité que de ne pas le ressortir régulièrement, de ne pas reparler de ce texte qui, au fond, a été normalement plié par la loi?
Je pense pas.
Je vais reformuler comme il faut. À chaque fois qu'on le ressort, en gros, est-ce qu'on risque à nouveau des dangers et de mettre les pieds dans le plat comme on est en train de le faire?
Moi, je vois pas les choses de cette façon-là. Je pense que, en réalité, à chaque fois qu'une polémique renaît sur le sujet de l'islam, du voile, c'est qu'en réalité, on n'a pas vraiment solutionné en fait la place de l'islam dans la société et, par ailleurs, d'une religion qui est visible. Et je crois que de la même façon que la laïcité ne s'est pas imposée en France du jour au lendemain, cette question-là, n'ayons pas la naïveté de penser qu'on va la résoudre en quelques coups de loi ou quelques coups de rappel à la loi.
Mais justement, donc, du coup, est-ce qu'on fait bien là d'essayer de remettre cette affaire dans la boîte? Parce que c'est un peu comme ça qu'on l'a entendu quand le Premier ministre décide de fermer le banc. Est-ce qu'on fait bien de le remettre dans la boîte? Ou est-ce qu'on devrait y aller plus fort, avoir un autre débat, de nouveaux débats, et en parler réellement ou pas?
Oui, moi je me dis en réalité, en voyant tout ce qui se passe, et en plus avec le contexte dans lequel on est, avec cet attentat à la préfecture de police de Paris, où on voit qu'on est quand même on est dans une société qui a fleur de peau sur ce sujet-là. Et je crois qu'on peut pas non plus à la fois taper sur les uns parce qu'ils ont peur, c'est normal d'avoir peur, et de l'autre côté, raviver les replis identitaires et communautaires, parce que la question que nous n'avons pas résolue dans notre société, c'est la question des quartiers populaires. Comment on éduque les gens à la citoyenneté, comment on accompagne les gens dans une société qui est laïque, et c'est très difficile de comprendre la laïcité quand vous venez de pays où l'islam politique a fait son œuvre. C'est très compliqué, donc je crois effectivement que peut-être que ces événements-là, on devrait les dépassionner et à mon avis se mettre autour d'une table et discuter, mettre vraiment les sujets sur la table, parce qu'il n'y a pas de sujet mineur concernant l'école et les accompagnatrices. On a des sujets qui sont extrêmement sérieux, et je voudrais dire aussi la question de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de laïcité quand il n'y a pas de mixité. Quand les gens sont repliés sur eux-mêmes et que leur seule identité est leur identité religieuse, comment voulez-vous qu'ils comprennent la laïcité ou leur demander de faire un pas en avant? Mais ça n'est pas possible.
Je voudrais quand même rebondir, Rodrigo Arenas, peut-être sur ce que vient de dire Bouchera Azouz. Est-ce que le contexte dont effectivement on parlait à l'instant, celui d'un attentat à la préfecture de police qui est extrêmement récent, est-ce que le contexte n'est pas le pire, le contexte le plus défavorable pour avoir précisément ce genre de débat? Parce que c'est le meilleur moyen de créer de terribles amalgames, non? Ou pas?
Vous savez, moi, la FCPE, on est Fédération d'utilité publique, on lutte contre la radicalisation, on lutte contre le prosélytisme politique d'où qu'il vienne, et à un moment donné, nous on fait le pari, d'ailleurs c'est ce qu'a rappelé le président de la République d'une certaine façon, même s'il y a polémique là-dessus, c'est que on a besoin de tout le monde pour lutter contre la radicalisation. On a besoin de tout le monde pour lutter contre le prosélytisme. On a besoin de tout le monde pour lutter contre le fait que les gamins se fassent embarquer dans des histoires que des fois ils ont même pas les clés pour comprendre. Et pour ça, on a l'école. On a l'école qui intègre. Surtout dans des quartiers auxquels vous faisiez référence, madame, dans lesquels la seule puissance publique et représentation de l'État qui existe est l'école. Et c'est précisément dans cet outil-là que les parents peuvent s'intégrer. Donc nous, on fait le pari de lutter contre ça, y compris avec les mamans qui portent un foulard, qui sont musulmanes et qui sont laïques.
Il y avait autre chose dans la question d'Églantine avant qu'on retourne au standard, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'appels. Est-ce qu'il y aurait de toute façon un problème d'accompagnement si on disait non aux femmes voilées pour accompagner les enfants? Vous, à la FCPE, Rodrigo Arenas, par exemple, est-ce que vous le voyez?
Mais nous,
est-ce qu'il y aurait un problème d'accompagnement, tout simplement, parce qu'on ne trouverait pas de mère pour pouvoir accompagner les enfants?
Mais pas simplement dans ces quartiers-là, pas simplement dans les quartiers qui sont relégués, pas simplement dans les quartiers où la population qui existe est majorité musulmane, ou en tout cas il y a beaucoup de mamans qui portent un foulard qui sont dans les sorties scolaires. Ça concerne toute la France. Aujourd'hui, vous avez la question des absences non remplacées, vous avez la question des médecins qui manquent dans les écoles, vous avez la question des gamins qui ont passé le bac, qui n'ont pas eu le bac et qui n'ont toujours pas d'affectation. C'est-à-dire que si on mettait les moyens pour que les gamins sortent, nous on dit banco, sauf qu'on sait qu'ils sont pas là. Ils sont même pas là pour faire fonctionner l'école normalement. Donc entre le dire et le faire, il y a un gap qui fait que si ces mamans-là n'étaient pas là, dans les quartiers de relégation, c'est la triple peine. Les gamins qui vont pas en sortie scolaire, les mamans qui ne peuvent pas utiliser l'école pour s'intégrer dans la société française et apprendre les droits de la République, et à un moment donné, c'est que c'est la triple peine, c'est qu'on continue à structurer les quartiers comme des quartiers de relégation.
Je voudrais qu'on retourne au standard, c'est une question pour vous, Nicolas Cadenne. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir, merci.
On vous écoute, allez-y.
Pour l'émission. Donc moi, je voudrais, d'abord, dire que le Conseil d'État, dans la décision qu'il a rendue, a une approche très juridique, une approche donc d'application du droit, bon, c'est une chose. Ensuite, je pense qu'il faut un horizon plus lointain. Il faut peut-être se dire que l'école, elle a une mission. Elle a une mission de faire société, elle a une mission de définir le vouloir vivre ensemble. Et je pense que cette maman a eu quand même une attitude clivante. Alors, je le dis sans...
Celle-là précisément, celle dont on parle, qui dans l'événement qui déclenche ce débat, Alain?
Oui, cette maman, mais il y a eu d'autres contextes où d'autres personnes ont pu avoir aussi des attitudes clivantes. Moi, en l'occurrence, je considère que il doit y avoir un dress code aussi quand on va à l'Assemblée nationale, quand on va au Sénat, quand on va dans des conseils régionaux, dans des conseils municipaux. On ne doit pas effectivement avoir une attitude clivante. Et c'est pas parce que cela risque de vexer certaines personnes qu'il ne faut pas le dire. Moi, je suis partisan effectivement d'une évolution de la loi pour que les accompagnants scolaires soient soumis au principe de laïcité, pour des questions vraiment de vouloir vivre ensemble. Et j'en terminerai juste en disant que le Coran n'impose pas, en fait, le voile. Et le voile est aujourd'hui un symbole, en fait, de l'islam politique. Et moi, ça me choque que, parce que ça risque de vexer telle ou telle personne, on ne veuille pas remettre le débat sur le devant de la scène, et je déplore la décision du Premier ministre aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Alain. Nicolas Cadenne, d'abord, alors trop juridique, nous dit Alain, en même temps un texte juridique à un moment doit être juridique. Est-ce qu'on peut rappeler exactement ce que dit le dernier avis, celui du Conseil d'État, donc celui de 2013?
C'est une étude effectivement du 19 décembre 2013 adoptée en Assemblée Générale du Conseil d'État qui rappelle que justement, on parlait de laïcité, mais il y a beaucoup de confusion. La laïcité, c'est pas la neutralité. Hein. La laïcité, c'est uniquement la neutralité de ceux qui exercent une mission de service public. Et justement, en l'espèce, le Conseil d'État rappelle que les parents accompagnateurs de sortie scolaire n'exercent pas une mission de service public. On les appelle parfois collaborateurs du service public, mais uniquement pour des raisons fonctionnelles d'assurance, en fait, hein, pour qu'ils soient couverts en cas de pépin. Mais ils n'exercent pas la mission de service public de l'enseignement, évidemment. Ils n'ont pas le droit de commenter un tableau ou une sculpture dans une visite scolaire, dans une sortie scolaire. Ça, c'est uniquement le rôle des enseignants qui, eux, exercent la mission de service public. Donc, ils ne sont pas soumis, effectivement, à la neutralité. Après, évidemment, ils n'ont pas le droit de faire de prosélytisme, c'est évident. Mais le prosélytisme, ça ne se caractérise pas par le simple port d'un signe. Le prosélytisme, ça se caractérise par un comportement, des paroles, des écrits, des actes. Et là, effectivement, c'est interdit et ça peut être rappelé aux parents d'élèves. Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, je ne crois pas que la parent et la mère aient fait quoi que ce soit
de
prosélyte.
Elle était dans le public.
Elle n'a pas eu de commentaires, elle n'a pas eu d'acte, rien du tout. Donc elle n'était pas prosélyte et donc effectivement elle avait le droit d'être là. Après, attention, je vois une interprétation a été donnée d'un signe religieux. Chacun a le droit de donner une interprétation, bien sûr, d'un signe religieux, mais l'État laïque, lui, parce qu'il est laïque, justement, hein, depuis 1905, très clairement, eh bien, il n'a pas à juger d'une pratique si elle ne trouble pas l'ordre public. Et là, en l'occurrence, ça ne troublait pas l'ordre public.
Ce que ça veut dire, c'est que le cas par cas est possible aussi. C'est peut-être ce qu'il faut rajouter à notre
oui, pour ce qui est plus important, Alain. C'est le comportement et analyser le comportement. Et une loi ne changerait rien à ça. C'est évidemment les acteurs de terrain.
Ça veut dire qu'un chef d'établissement peut, lui, prendre évidemment des décisions.
Bien sûr, bien selon le comportement sur le terrain, bien entendu.
Boucher-Razouz, il y a quelque chose qu'a dit notre ami Alain aussi qui m'interpelle, qui dit, selon lui, c'est deux choses qu'on entend des fois, le voile est prosélyte. J'ai envie de vous poser la question comme ça. Y a-t-il plusieurs voiles?
Oui, il y a plusieurs voiles et je pense que toute la complexité en fait de l'appréhension de la question du voile qu'on a effectivement érigé, mais parce qu'il faut revenir quand même déjà en 89 avec la première histoire du voile, où effectivement le voile de 89 c'était un voile vraiment de l'intrusion de cet islamisme radical qui commençait à arriver dans les quartiers populaires. Et c'est vrai que le voile tel qu'on l'a connu à ce moment-là n'existait pas, y compris dans les pays d'origine. Donc il est évident que ce voile-là était lié à cet islamisme-là, mais que depuis, en 30 ou 40 ans, les choses ont énormément changé, y compris dans les pays d'origine. Et on voit qu'il y a une myriade de voiles, de façons de le porter, du jelbeb au niqab, à la burqa, au simple voile, au turban, etc. Donc on voit finalement que les femmes, sous la pression religieuse, eh bien, elles essayent de mettre en place des stratégies de contournement, et je crois qu'il faut aussi les prendre en considération, et qu'on ne peut pas simplement faire aujourd'hui une équation simple et dangereuse qui serait le voile égal islamisme politique, islamisme djihadiste. C'est assez dangereux ce raccourci, mais je ne veux pas non plus laisser penser qu'on n'a pas un sujet aussi avec... Et c'est pour ça je crois qu'il y a une espèce de ligne de fracture dans la société française où d'un côté vous avez des gens qui ont encore une fois extrêmement peur et qui ne comprennent pas la complexité aussi de l'évolution de l'islam, mais j'ai envie de dire qu'il faut prendre aussi en considération ce qui se passe à l'échelle du monde parce que cette crise identitaire de messages dans l'islam, elle traverse tous les pays arabo-musulmans. Et dans les pays musulmans, vous avez énormément de débats conflictuels aussi sur la question du voile.
Ces débats conflictuels, ils existent partout, ils existent aussi dans chacune de nos sociétés. Pourtant, nous sommes les seuls à avoir une loi comme celle qui a de 2004, par exemple, et s'ensuit, en tout cas, les seuls à avoir une loi sur le voile à l'école. Et au fond, je me pose presque la question, Nicolas Cadenne, est-ce que cette loi a rigidifié le débat ou est-ce qu'elle l'a fluidifié, sincèrement?
En fait, cette loi, je pense, a une vraie utilité, mais en revanche, peut-être que les débats qu'il y a eu autour de la loi ont, eux, été assez négatifs, parce qu'en effet, ils n'ont pas forcément posé le débat comme il le fallait, ils n'ont pas réglé les problèmes de fond, et en revanche, ils ont souvent entraîné de la confusion sur ce qu'était la laïcité. En revanche, cette loi a effectivement permis d'apaiser un certain nombre de choses, de situations dans les écoles, et pour ma part, je la pense positive, et il n'est pas question de revenir dessus. C'est une loi... En revanche, voilà, sur laquelle on n'a peut-être pas assez fait de pédagogie. On l'a pas assez expliqué, on n'a pas rappelé qu'il s'agissait finalement, par cette loi, eh bien, de préserver un environnement, de faire en sorte que des jeunes, des mineurs, que sont les élèves, puissent apprendre les bases du savoir sans pression entre eux, sans dispute entre eux sur qui c'est qui porterait des signes ostensibles ou pas, et de rester assez discret sur leur appartenance religieuse, même s'ils ont le droit bien sûr entre eux de parler de religion, parce que voilà, ils sont en formation de citoyenneté.
Patricia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y Patricia, on vous écoute. Oui.
Alors écoutez, moi je voulais surtout exprimer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu les propos du ministre Blanquer. J'ai vraiment reçu ces propos comme une gifle vraiment très forte à mes valeurs républicaines. J'ai eu l'impression tout à coup que la République, un peu moribonde, était morte définitivement. Parce que utiliser la laïcité pour en fait entraîner un rejet, une humiliation, une exclusion, c'est détourner la laïcité de son principe fondamental qui est en fait, comme votre interlocuteur le disait tout à l'heure, de rassembler à partir du moment où cela ne gêne pas la sphère publique. Le problème, c'est que nous sommes dans le cadre d'un bénévolat, d'une maman qui n'est en rien un agent du service public, qui est une maman comme les autres qui accompagne les enfants. Et nous avons tout à coup un ministre qui représente les valeurs républicaines en principe, qui vient, qui rentre dans la brèche un peu de ce qui s'est passé dans les discours du Front National, enfin du Rassemblement National. Bon, c'est eux, on sait très bien de quelles valeurs se compose leur mouvement, hein. C'est pas un scoop, hein. On connaît tout ça. Mais qu'un ministre de la République utilise ce genre d'argumentaire pour rejeter une partie communautaire de notre pays. Alors là, moi vraiment, j'ai été complètement mais blessée par ces propos. Merci. Et puis en même temps, je voulais juste rajouter...
Allez-y vite, pardonnez-moi
je
Patricia.
Je suis dans la fonction publique territoriale, j'ai beaucoup de collègues qui sont musulmanes, qui portent le voile, qui le retirent en prenant leur service et qui reportent le voile quand elles quittent l'établissement. Et je puis vous dire que ce sont des femmes qui ne font pas de prosélytisme et qui non plus ne sont pas du tout dans un état de soumission.
Merci.
Ce sont des femmes qui portent le voile parce qu'elles croient, tout simplement.
Et merci Patricia. Pardon Patricia, mais pardon de vous interrompre, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui nous appelle au 01 45 24 7000. Merci beaucoup pour votre témoignage. Rodrigo Arenas, j'entends ce que dit Patricia au sujet des propos de Jean-Michel Blanquer. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il y avait au sein du gouvernement une vraie scission. Et au fond, j'ai envie de vous poser la même question dans l'autre sens que j'ai posé à Boucher et Azouz tout à l'heure en demandant s'il y avait plusieurs foulards. Au fond, on a l'impression des fois qu'il y a plusieurs laïcités, y compris au sein du gouvernement, peut-être même à l'école, en fait. Il y a une espèce de laïcité souple et de laïcité dure, alors que théoriquement, il devrait y en avoir qu'une.
Il y a deux choses, en fait. D'abord, Montesquieu disait qu'il y avait des lois inutiles qui affaiblissent les lois essentielles. La loi essentielle, c'est la loi de 1905, et il n'y a rien à retoucher. C'est celle qu'on apprend à l'école, d'ailleurs, et celle qu'on apprend à commenter, et c'est celle qu'on apprend pour connaître la République.
Donc la loi de 2004 a cristallisé le débat, selon vous, alors qu'elle n'aurait pas dû.
Elle cristallise parce qu'elle... Elle ne prend pas en compte aussi le débat de la xénophobie qui prend en compte dans notre pays aussi. Parce que c'est ça qui est derrière. C'est pas un problème sur la laïcité. Il faut se dire les choses. Vous savez, les mamans dont on est en train de parler qui portent un foulard, c'est nos voisines. Moi, quand mes gamins ils partent en sortie scolaire, les mamans qui les accompagnent, parce que moi je bosse et que je peux pas faire les sorties scolaires, c'est les gens avec qui je vis, c'est les mamans qui les accompagnent, dont les enfants jouent avec les miens. C'est de ça dont on est en train de parler. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'instrumentaliser en fait une réalité sociale où les gens essayent de vivre ensemble pour d'autres raisons qui échappent en fait à l'école. Et par contre, de penser que l'école n'est pas le réceptacle aussi de tous les travers de notre société, c'est aussi une illusion. C'est soit un déni, soit de la folie. Aujourd'hui, c'est clair que derrière cette instrumentalisation d'une affiche de la FCPE qui n'était pas la seule d'ailleurs. Alors, il y avait une affiche sur le harcèlement scolaire, il y avait une affiche sur la malnutrition, une affiche sur les classes surchargées, une affiche...
Oui, mais il y a eu celle-là quand même qui a fait beaucoup parler d'elle.
Et pourquoi celle-là? Vous savez, la plus choquante, c'est pas celle-là. La plus choquante, c'est celle sur le harcèlement des enfants, dans laquelle on dit que les enfants sont pas assez écoutés. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'aujourd'hui, la parole d'un enfant vaut mieux que celle d'un adulte. Et c'est d'ailleurs les propos du ministre.
Puisque je vous
Donc,
tiens,
voyez, on est dans cette situation-là.
Puisque je vous tiens, Rodrigo Renas, là-dessus, Isabelle, justement, voulait vous poser une question précisément sur cette fameuse affiche. Bonsoir, Isabelle.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour la qualité de vos émissions. Donc juste pour poser, je suis mariée à un délégué FCPE du primaire, du collège, aujourd'hui du lycée, en Seine-et-Marne, toujours votant FCPE, donc toujours convaincue. J'ai été choquée effectivement par l'affiche de la FCPE moi-même. Je m'en suis ouverte à mon mari qui lui a ouvert le débat aussi de son côté. Mais du coup, ça m'a obligée à aller regarder le texte de loi et j'ai vu l'opposition. La maman qui est accompagnante est usagère de l'école. Non, moi la perception que j'en ai, et pourtant je considère qu'on peut pas me raccourcir à dire je suis pro FN parce que je suis totalement contre, mais je suis aussi.
On ne veut pas vous raccourcir.
Défendre la laïcité, et je me dis non, une maman qui accompagne un projet pédagogique en sortie, certes c'est du bénévolat comme disait votre auditrice précédente, mais elle fait partie du projet pédagogique. Et c'est là où je pense qu'on a, et je voulais vous poser la question, quelle lecture vous faites de « non, c'est pas juste une usagère de l'école, une maman qui vient chercher son enfant est usagère de l'école, une maman qui accompagne les enfants en sortie n'est plus usagère de l'école, elle prend part à un projet pédagogique ».
Et alors, la définition, autant dans ces cas-là, se réfugier, mais non, enfin, se mettre vraiment devant la vraie définition, Nicolas Cadenne, c'est lequel elle a donné.
Il faut faire attention, parce qu'en fait, oui, vous avez lu usagère de l'école, mais usager d'un service public, ça peut être pris au sens très large, et là, en l'occurrence, ça va être pris au sens très large. Les citoyens sont aussi catégorisés usagers, en fait, même quand ils sont simples citoyens, sans qu'ils ne reçoivent forcément un service public. Là, effectivement, on ne dit pas que ces mamans accompagnatrices ne collaborent pas au service public. D'ailleurs, on les appelle comme ça. En revanche, on dit qu'elles n'exercent pas la mission de service public parce que non, effectivement, elles ne participent pas à la pédagogie et à l'enseignement. Mmh. Ça, c'est inexact. Ce sont uniquement les enseignants qui ont le droit et la capacité de délivrer un enseignement, d'expliquer ce qu'ils sont en train de visiter, de voir, de etc. Eux, les parents accompagnateurs, ne peuvent que se limiter, mais c'est déjà bien, à aider logistiquement à traverser la rue, à monter sur le bus, etc. Mais en aucun cas, ils ne peuvent participer à l'activité de service public, à la mission de service public de l'enseignement.
On est d'accord dans le rôle qu'est celui de ces parents-là, effectivement, c'est s'assurer que les enfants ne vont pas sur la route, s'assurer qu'on les retrouve dans le musée, qui sont pas tous partis s'égayer dans toutes les salles, etc. Je voudrais qu'on écoute Samira. Bonsoir Samira.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Moi, en fait, ce qui me peine un petit peu avec cet énième débat, c'est que j'ai l'impression que on s'éloigne beaucoup de la réalité du terrain. Là, je suis ravie d'ailleurs qu'on ait une personne de la FCPE parmi nous, parce que ça permet en quelque sorte de pas perdre pied. J'aimerais rappeler, comme je l'ai dit au Standard, qu'aujourd'hui, il y a une principale qui a tenté de mettre fin à ce jour dans un collège en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. On peut penser que c'est hors sujet, mais pour moi, tout est lié. Dans le sens où le temps qu'on perd à se poser des questions sur le choix vestimentaire des parents, on le perd en fait, on perd également une énergie à parler des vrais problèmes de société. Dans le sens où aujourd'hui on peut parler avec n'importe quel Français, ce qui va l'intéresser, ça va être son niveau de vie, ça va être son pouvoir d'achat, ça va être sa manière de, enfin comment dire, son pouvoir de lutte contre la précarité au quotidien, contre le chômage. Et moi ça me peine qu'on voit ça parce que déjà de manière inéluctable, à chaque fois on déverse ce débat sur le sort des femmes voilées qui ont choisi de se voiler. On va jamais parler des hommes barbus. On va toujours attaquer sur l'espace public des femmes voilées. Et en plus de ça, comme je l'ai dit là il y a quelques secondes, on ne parle pas des vrais problèmes de société. On le sait très bien aujourd'hui de manière factuelle. Je pose une question à toutes les personnes présentes. De manière factuelle, si là par exemple demain, on a un enseignant qui est face à nous. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le débat numéro un qui hante son esprit toute la nuit? Je pense pas. Si on pose la question aux parents d'élèves, est-ce que vous pensez que c'est ce qui inonde ses pensées? Je pense pas non plus, parce qu'aujourd'hui, ça, le fait d'avoir des accompagnatrices voilées ou non, ça lui permet en quelque sorte de se libérer. Et
Samira, pour que les choses soient bien claires, vous êtes voilée d'après ce qu'on m'a dit au Standard, c'est ça l'idée?
Exactement.
Et justement, puisque vous posez la question autour de la table, vous allez pouvoir nous le confirmer ou pas, vous, oui. quand vous allez chercher vos enfants, etc., ou quand, est-ce que vous participez aux sorties scolaires, par exemple? Est-ce que vous avez déjà eu une remarque ou pas?
Alors, moi, pour ma part, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas mariée, mais par contre, je sais que dans mon entourage, à chaque fois, il n'y a aucun problème quand il y a une sortie scolaire, parce que ça sert les enseignants. En fait, moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est cette critique de la femme musulmane. Mais par contre, quand ça va être la fête de l'Aïd et qu'elle va apporter des gâteaux, il n'y a aucun souci.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Samira Bouchera-Azouz. On va répondre à la question pile de Samira. En effet, si on va aujourd'hui, sincèrement, devant une école, avec une femme voilée qui ira chercher ses enfants, est-ce que ce sera le sujet de conversation à la sortie de l'école, selon vous? Ou est-ce qu'on est en train, effectivement, de une fois qu'on a sorti ce débat de cette boîte, on est en train de débattre sur des choses qui, au fond, sont-elles si importantes?
Je vais faire une petite digression, mais si vous voulez, moi, à mon époque, quand j'étais gamine, le problème de la société française, c'était les immigrés, et en particulier les immigrés maghrébins. Mmh. De la question arabe, on a glissé à la question de l'islam. Et évidemment, la question des discriminations est une question qui vient s'ajouter à la question de cette perception de l'islam dans la société française. Donc, si vous voulez, il y a deux choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et donc, vous avez deux courants, on le voit bien avec les intervenantes. Vous avez d'un côté des gens qui sont des humanistes, universalistes, qui sont de cet héritage de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, etc. Et puis, vous avez de l'autre côté tous ces... combattant d'une laïcité pure et dure, comme dit Nadine Morano, de culture judéo-chrétienne, etc. Donc on voit bien quand même que ce débat-là fait ressortir dans la société des lignes de front qui traversent la société, des lames de fond qui traversent la société depuis toujours, et qui sont à la fois la question de la lutte contre le racisme, mais en même temps tous les courants qui sont anti-religieux. Et du coup, pour eux, si vous voulez, c'est un terreau dans lequel ils viennent, et effectivement, les femmes sont toujours la variable d'ajustement. Et moi, je suis désolée, mais je serai toujours du côté des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles nous montrent à l'échelle, encore une fois, du monde, que tous les mouvements d'émancipation et de transformation des sociétés passent par les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème avec la question de cet islam radical qui a imposé le voile comme étant incontournable dans l'image, dans le statut de la femme respectable, c'est le voile. Mais je suis convaincue que les femmes, elles sont suffisamment armées, équipées pour s'émanciper. Restons convaincus que la République et les valeurs républicaines sont fortes, et qu'avec ces valeurs-là, on arrivera à dépasser les problématiques. Mais on doit aussi être vigilant par rapport au jeu du politique qui n'est pas au service de l'intérêt général, qui est dans des stratégies électoralistes et qui vient, si vous voulez, s'imposer dans le débat. Mais je voudrais aussi vous dire, monsieur de la FCPE, que c'était pas malin cette affiche, très sincèrement. Je veux dire, on est au quotidien, au plus près des femmes dans les quartiers populaires, pour leur donner les moyens de leur émancipation, pour les accompagner à trouver des espaces de liberté, d'expression. Et vous relancez un débat qui n'était pas utile, très honnêtement. Et je pense que ça, c'est pas responsable. Et donc, il y a d'un côté la raison. On a tous raison, on va aller convoquer la loi. J'ai le droit de porter mon voile, j'ai le droit d'être contre le voile, etc. Mais ce qui nous sauvera, pardon, c'est la voie de l'intelligence. Et pour le coup, pour moi, je ne trouvais pas ça du tout intelligent.
Et vous avez le droit de répondre, Rodrigo Arenas, avant qu'on retourne au standard.
Non, c'est une opinion qui existe aussi au sein de notre fédération. Et nous, on pense au contraire que la loi de l'émancipation auquel vous faites référence passe aussi par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été président de la FCPE en Seine-Saint-Denis pendant très longtemps, et il y a des mamans qui étaient tout à fait laïques, qui étaient contre la radicalisation, qui étaient dans un schéma d'émancipation aussi, et qui expliquaient très clairement que les équipes pédagogiques ne faisaient pas de sortie scolaire parce que justement elles ne voulaient pas avoir des mamans qui portaient un foulard pour faire la sortie scolaire. Donc notre job à nous, c'est de rappeler le droit. C'est rappeler juste droit. Donc, et en tant que gars, hétérobouf, machiste, par mon éducation latino-américaine, etc., les hommes aussi ont un chemin d'émancipation à faire. Et je ne nie pas à ces femmes-là de pouvoir faire ce chemin-là grâce à l'école, justement, et grâce à l'intégration, comme nous, en tant qu'hommes aussi, on peut le faire. Et c'est un combat qu'il faut mener ensemble, et pas en opposant les gens. Et je pense que nous sommes dans le juste. Non pas dans le juste pour provoquer, non pas dans le juste pour mettre un sujet brûlant sur la table. Faire simplement dire à la France que oui, aujourd'hui, ces femmes-là sont victimes de discrimination. discrimination et que ce n'est pas normal parce que les droits les protègent. L'école est faite pour protéger. Elle est faite pour protéger les enfants, pour protéger les enseignants, les directrices d'école, comme vous y reviens, mais aussi pour protéger les mamans qui accompagnent ça. Donc, après, oui, effectivement, vous avez raison, c'est une affiche qui bouscule parce que c'est la France qui est bousculée par cette situation-là. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'immigration. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la xénophobie. Vous avez parlé tout à l'heure de la question, en fait, du bouc émissaire pour expliquer les mots de la France. Et ben, à un moment donné, il faut dire aussi qu'à travers ces femmes-là qui portent un foulard et qui font le choix de le faire d'une certaine façon, et ben, la République les protège dans leur chemin dans l'émancipation, même si c'est pas notre idéal, même si c'est pas votre idéal, même si ce n'est pas le même. Pour autant, elles ont le droit de le faire et aussi le droit de ne pas le faire. Parce que, comme le rappelait M. Cadel, la République et la laïcité permet de ne pas croire. C'est justement ce qui a gagné 1905. Mais elle permet aussi de croire. Et je pense qu'aujourd'hui, que pour lutter contre les dérives dans lesquelles nous sommes, nous avons besoin de tout le monde, à la fois ceux qui croient et à la fois ceux qui ne croient pas, parce que, in fine, nous sommes tous des défenseurs de la République et il faut arrêter de cliver les gens.
Une question pour vous, Nicolas Cadenne, avant qu'on retourne au standard. Est-ce qu'on a une idée? Alors, je sais bien que les statistiques sont interdites dans ce genre de choses sur la religion, les statistiques ethniques, etc. Mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la sociologie, de qui sont les femmes qui sont voilées, qui peuvent participer éventuellement aux sorties scolaires? Est-ce qu'il y a, ça existe une sorte de portrait type?
En fait, il y a des études sociologiques qui ont été faites, bien entendu. D'ailleurs, je vous invite à consulter une étude qu'on a faite sur la visibilité et l'expression religieuse en France, qui est très intéressante à plus d'un titre. Mais oui, effectivement. Alors, portrait type, non, ça c'est pas possible. Mais enfin, ce qu'on constate, en effet, c'est que le profil des femmes qui portent le voile, mais d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, est extrêmement varié. Mmh. Extrêmement varié. Les voiles, en effet, sont très différents les uns des autres. Et les raisons de porter le voile sont elles-mêmes extrêmement multiples. Donc, en effet, on voit tout un tas de raisons très diverses qui peuvent expliquer ça. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est a priori risqué, dangereux de d'essentialiser et de simplifier, à la caricature en disant, le voile, c'est ci, c'est ça. Et toutes les personnes qui portent le voile sont du coup ceci ou cela.
Et ma crainte, moi, c'est qu'on fasse le jeu simplement de tous les hyper-fondamentalismes finalement, enfin, le fondamentalisme islamique, mais aussi les plus extrêmes de nos partis. Regardez, ils nous détestent tous. Voilà. C'est ce qu'on peut entendre aussi.
Ouais. Il faut faire attention à cela, en effet. Je crois que le cadre de la loi de 1905 et des lois qui ont suivi, de la jurisprudence, est largement suffisant. Il pose cet équilibre entre liberté individuelle et respect de l'ordre public, du collectif. Il faut faire attention à ne pas multiplier les interdits, effectivement, comme d'ailleurs, voilà, le Premier ministre a rappelé qu'il n'y avait pas besoin de nouvelles lois là, parce que si on multiplie les interdits, on rentre dans le subjectif, et alors on rentre dans quelque chose qui n'est plus objectif, qui n'est plus cadré, qui n'est plus posé, et on alimente potentiellement les discours victimaires qui sont largement utilisés par les endoctrineurs, par les extrémistes religieux.
Et on choisit l'affrontement, dans ces cas-là, on a guère le choix. Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter 28 minutes et 42 secondes, on vous écoute.
Je me suis beaucoup amusée, je n'ai qu'un bac plus 6, mais le nombre de mots absolument abstraits, abscons que je viens d'entendre là, tous les beaux sentiments, les belles paroles, alors moi je ne retiendrai que, tiens, il y a dans des pays arabes des femmes qui face au voile ont une stratégie d'évitement. Bon, il faut le dire.
De contournement. C'était ça le mot de Boucheraz.
Oui, j'ai des photos que j'ai commentées avec mes élèves où en Iran, on porte le voile de plus en plus court sur un jean troué, etc. Tout est possible. Donc, contournement du voile. Mais chez nous, apparemment, la stratégie du contournement, il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes qui l'appliquent. Premier point. Deuxième point. J'étais enseignante. Pour moi, l'inscription dans une école publique d'un enfant, ça veut dire j'accepte pour lui les codes. J'accepte l'enseignement, y compris civique, qui va lui être donné. Il n'aura le droit, dans sa période scolaire, à aucun signe religieux. Mais moi, maman voilée, je lui dis, ça c'est bon pour toi, pour les autres, pendant que tu es petit, mais moi, je garde mes valeurs. Moi, je suis voilée. Et dans la tête de l'enfant s'installe une espèce de dichotomie entre les vraies valeurs de la maison et les valeurs de l'école. Ça, c'est un message très fort envoyé à son enfant. Et la maman de l'autre jour, qui est allée, qui est restée jusqu'à ce que son enfant pleure, quelle est la maman française ou la maman du monde qui, ayant un enfant tellement stressé qui va se mettre à pleurer, que fait la maman normale? Elle prend son enfant par la main et elle sort. celle-ci est restée jusqu'à ce que le gosse chiale et que ça fasse de bonnes
Alors, vous parliez de vocabulaire, pardonnez-moi, vous parliez de vocabulaire tout à l'heure, la maman normale, donc associée à une maman qui ne serait pas normale, puisqu'on parle de vocabulaire, on pourrait se renvoyer ce vocabulaire. Pardon de vous interrompre, Marie, parce qu'il est 57 et dans deux minutes, on aura fini, mais merci aussi de votre témoignage. Bouchera Azouz, est-ce que chez nous, comme dit Marie, notamment sur le port du voile, c'est très différent d'ailleurs. Et ces fameux contournements dont vous parliez tout à l'heure, là, notre auditrice ne les voit pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée que chez nous, ça n'existe pas, en fait?
Non, je pense que...
Au fond, comme
je
si
pense
nous...
qu'il faut aller un petit peu dans les quartiers pour voir un peu la réalité au quotidien. Mais... en même temps, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, si vous voulez, c'est qu'il y a une réalité. Voilà, dès qu'on allume sa télé, on le voit bien. Il y a une réalité qui est l'islamisme fondamentaliste politique. Enfin, je sais même plus comment on peut le définir, qui est une réalité qui habite l'imaginaire collectif. Et puis il y a nous, les individus, qui bon an mal an essayons de faire notre place dans la société française. Et voilà. Et ça, c'est une réalité. Et vous allez dans les quartiers, vous avez des filles qui portent le voile la semaine, qui le week-end vont en boîte de nuit, qui sont sur des sites de rencontres, qui couchent avant le mariage, qui prennent la pilule, qui fument, qui vont dans des concerts, etc. etc. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut sortir un peu de
une vision monolithique,
l'hystérie collective, mais en même temps, encore une fois, et ça c'est toujours un peu mon sacerdoce, c'est qu'il y a des problématiques de fond et que ces problématiques, il faut quand même les mettre sur la table.
Nicolas Cadenne, juste une dernière chose dans la manière dont notre amie auditrice Marie a formulé sa question. Et moi, je trouve ça très intéressant. Elle parle des codes, mais au fond, on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes codes au fond dès lors qu'on pénètre à l'intérieur de l'école. Elle parle des codes de d'une école publique et des codes à respecter. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce qu'il y a vraiment des codes tels qu'elle l'entendait?
Je dirais pas comme ça. L'école, elle doit former le futur citoyen. Ça, on est tous d'accord. Et donc, on a d'ailleurs remis en place l'enseignement moral et civique, qui est quelque chose d'un enseignement qui est beaucoup moins vertical qu'auparavant et qui permet aux élèves de mieux s'approprier les valeurs de la République et le principe de laïcité par des jeux de rôle, par du théâtre, par des scénettes, etc. Il est important que l'élève devienne citoyen. Ça, c'est évident. Après, en revanche, oui, vous avez votre vie chez vous. Et là, on la respecte et l'école la respecte, et puis la vie à l'école où on transmet ces valeurs républicaines qui peuvent parfois aussi être transmises par d'autres canaux pour autant. Il ne faut pas croire que les deux choses sont totalement étanches.
Allez, merci vraiment à tous. Merci de votre participation à ce téléphone sonne. Encore de nombreux appels ce soir. Merci mille fois. Portez-vous bien. Laura Adler dans un instant.